Le Capital, livre premier, troisième section, chapitre grand 10, grand 2. Le capital affamé de surtravail. Boyard et fabricant. Le capital n'a point inventé le surtravail. Partout où une partie de la société possède le monopole des moyens de production, le travailleur, libre ou non, est forcé d'ajouter autant de travail nécessaire à son propre entretien, un surplus destiné à produire la subsistance du possesseur des moyens de production. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Ceux qui travaillent, trois petits points, nourrissent en réalité tout à la fois et les pensionnaires qu'on appelle les riches, et eux-mêmes, fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, Edmund Burke, Locksit page 2, fermez la parenthèse, fin de la note de bas de page. Donc, partout où une partie de la société possède le monopole des moyens de production, le travailleur, libre ou non, est forcé d'ajouter autant de travail nécessaire à son propre entretien, un surplus destiné à produire la subsistance du possesseur des moyens de production. Que ce propriétaire soit
Kalos Hagathos,
Athénien, théocrate étrusque, citoyen romain, baron normand, maître d'esclaves américain, boyard valaque, seigneur foncier ou capitaliste moderne, peu importe. Note de bas de page. Nibhua, dans son « Histoire romaine », laisse échapper cette naïve remarque. Ouvrez les guillemets. On ne peut se dissimuler que des ouvrages comme ceux des Étrusques, dont les ruines nous étonnent encore aujourd'hui, supposent dans les petits états des seigneurs et des serfs. Fermez les guillemets. Sismondi est bien plus dans le vrai quand il dit que les « dentelles de Bruxelles » entre guillemets supposent des capitalistes et des salariés. Fin de la note de bas de page. Donc, que ce propriétaire soit athénien, théocrate étrusque, citoyen romain, baron romain, maître d'esclaves américain, boyard valaque, seigneur foncier ou capitaliste moderne, peu importe. Avant d'aller plus loin, constatons d'abord un fait. Quand la forme d'une société est telle, au point de vue économique, que ce n'est point la valeur d'échange, mais la valeur d'usage qui y prédomine, le surtravail est plus ou moins circonscrit par le cercle de besoins déterminés. Mais le caractère de la production elle-même n'en fait point naître un appétit dévorant. Quand il s'agit d'obtenir la valeur d'échange sous sa forme spécifique, par la production de l'or et de l'argent, nous trouvons déjà dans l'Antiquité le travail le plus excessif et le plus effroyable. Travailler jusqu'à ce que mort s'en suive devient alors la loi. Qu'on lise seulement à ce sujet Diodore de Sicile. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Il est impossible de voir ces malheureux, ouvrez la parenthèse, dont les mines d'or situées entre l'Égypte, l'Éthiopie et l'Arabie, fermez la parenthèse, qui ne peuvent pas même entretenir la propreté de leur corps ni couvrir leur nudité sans être forcés de s'apitoyer sur leur lamentable destin. Là, point d'égard ni de pitié pour les malades, les estropiés, les vieillards, ni même pour la faiblesse des femmes. Tous, forcés par les coups, doivent travailler et travailler encore jusqu'à ce que la mort mette un terme à leur misère et à leur tourment. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse. Diode 6, Bibliothèque historique, livre grand 3, chapitre 13, fermez la parenthèse, fin de la note de bas de page. Donc, quand il s'agit d'obtenir la valeur d'échange sous sa forme spécifique, par la production de l'or et de l'argent, nous trouvons déjà dans l'Antiquité le travail le plus excessif et le plus effroyable. Travailler jusqu'à ce que mort s'en suive devient alors la loi. Qu'on lise seulement à ce sujet Diodore de Sicile. Cependant, dans le monde antique, ce sont là des exceptions. Mais dès que des peuples, dont la production se meut encore dans les formes inférieures de l'esclavage et du servage, sont entraînés sur un marché international dominé par le mode de production capitaliste, et qu'à cause de ce fait, la vente de leurs produits à l'étranger devient leur principal intérêt, dès ce moment, les horreurs du surtravail, ce produit de la civilisation, viennent s'enter, note de la donneuse de voix, E-N-T-E-R, se greffer, fin de la note de la donneuse de voix. Donc dès ce moment, les horreurs du surtravail, ce produit de la civilisation, viennent s'enter sur la barbarie de l'esclavage et du servage. Tant que la production dans les États du Sud de l'Union américaine était dirigée principalement vers la satisfaction des besoins immédiats, le travail des nègres présentait un caractère modéré et patriarcal. Mais à mesure que l'exportation du coton devint l'intérêt vital de ces États, le nègre fut surmené et la consommation de sa vie en 7 années de travail devint partie intégrante d'un système froidement calculé. Il ne s'agissait plus d'obtenir de lui une certaine masse de produits utiles. Il s'agissait de la production de la plus-value quand même. Note de la donneuse de voix. Dans le texte d'origine en allemand, on lit « Es galt nun der Produktion des Mehrwerts selbst », c'est-à-dire « Il s'agissait maintenant de la production de la plus-value elle-même ». Fin de la note de la donneuse de voix. Donc il ne s'agissait plus d'obtenir de lui une certaine masse de produits utiles, il s'agissait de la production de la plus-value elle-même. Il en a été de même pour le cerf, par exemple, dans les principautés danubiennes. Comparons maintenant le surtravail dans les fabriques anglaises avec le surtravail dans les campagnes danubiennes, où le servage lui donne une forme indépendante et qui tombe sous le sens. Étant admis que la journée de travail compte 6 heures de travail nécessaire et 6 heures de travail extra, le travailleur libre fournit au capitaliste 6 fois 6 ou 36 heures de surtravail par semaine. C'est la même chose que s'il travaillait 3 jours pour lui-même et 3 jours gratis pour le capitaliste. Mais ceci ne saute pas aux yeux. Surtravail et travail nécessaire se confondent l'un dans l'autre. On pourrait en effet exprimer le même rapport en disant par exemple que l'ouvrier travaille dans chaque minute 30 secondes pour le capitaliste et 30 pour lui-même. Il en est autrement avec la corvée. L'espace sépare le travail nécessaire que le paysan valaque, par exemple, exécute pour son propre entretien, de son travail extra pour le boyard. Il exécute l'un sur son champ à lui et l'autre sur la terre seigneuriale. Les deux parties du temps de travail existent ainsi l'une à côté de l'autre d'une manière indépendante. Sous la forme de corvée, le surtravail est rigoureusement distinct du travail nécessaire. Cette différence de forme ne modifie assurément en rien le rapport quantitatif des deux travaux. 3 jours de surtravail par semaine restent 3 jours d'un travail qui ne forme aucun équivalent pour le travailleur lui-même, quel que soit leur nom, corvée ou profit. Chez le capitaliste, cependant, l'appétit de surtravail se manifeste par son âpre passion à prolonger la journée de travail outre mesure. Chez le boyard, c'est tout simplement une chasse au jour corvéable. Note de bas de page. Ce qui suit se rapporte aux conditions des provinces roumaines avant les changements opérés depuis la guerre de Crimée. Fin de la note de bas de page. Donc, chez le capitaliste cependant, l'appétit de surtravail se manifeste par son âpre passion à prolonger la journée de travail outre mesure. Chez le boyard, c'est tout simplement une chasse au jour corvéable. Dans les provinces danubiennes, la corvée se trouvait côte à côte des rentes en nature et autres redevances. Mais elle formait le tribut essentiel payé à la classe régnante. Dans de pareilles conditions, la corvée provient rarement du servage. Mais le servage, au contraire, a la plupart du temps la corvée pour origine. Ainsi en était-il dans les provinces roumaines. Leur forme de production primitive était fondée sur la propriété commune, différente cependant des formes slaves et indiennes. Une partie des terres était cultivée comme propriété privée par les membres indépendants de la communauté. Une autre partie, l'ager publicus, était travaillée par eux en commun. Les produits de ce travail commun servaient d'une part comme fonds d'assurance contre les mauvaises récoltes et autres accidents, d'autre part comme trésor public pour couvrir les frais de guerre, de culte et autres dépenses communales. Dans le cours du temps, de grands dignitaires de l'armée et de l'Église usurpèrent la propriété commune et avec elle les prestations en usage. Le travail du paysan, libre cultivateur du sol commun, se transforma en corvée pour les voleurs de ce sol. De là naquirent et se développèrent des rapports de servage qui ne reçurent de sanctions légales que lorsque la libératrice du monde, la Sainte Russie, sous prétexte d'abolir le servage, l'érigea en loi. Le Code de la corvée, proclamé en 1831 par le général russe Kisselev, fut dicté par les boyards. La Russie conquit ainsi du même coup les magnats des provinces du Danube et les applaudissements du crétinisme libéral de l'Europe entière. D'après le « règlement organique », tel est le nom que porte ce code, tout paysan valaque doit au soi-disant propriétaire foncier, outre une masse très détaillée de prestations en nature, premièrement, 12 jours de travail en général. Deuxièmement, 1 jour pour le travail des champs. Et troisièmement, 1 jour pour le charriage du bois. En tout, 14 jours par an. Or, avec une profonde sagacité économique, on a eu soin d'entendre par journée de travail non pas ce qu'on entend ordinairement par ce mot, mais la journée de travail nécessaire pour obtenir un produit journalier moyen. Et ce produit journalier moyen a été déterminé avec tant de roueries qu'un cyclope n'en viendrait pas à bout en 24 heures. Le règlement entre guillemets lui-même déclare donc, avec un sans façon d'ironie vraiment russe, qu'il faut entendre par 12 jours de travail le produit d'un travail manuel de 36 jours. Par 1 jour de travail des champs, 3 jours, et par 1 jour de charriage de bois, 3 jours également. Total, 42 jours de corvée. Mais il faut ajouter à ceci ce qu'on appelle la jobagie, ensemble de prestations dues aux propriétaires fonciers pour services agricoles extraordinaire. Chaque village, en raison de sa population, doit fournir pour la jobagie un contingent annuel. Ce travail de corvée supplémentaire est estimé à 14 jours. Ces 14 jours, ajoutés aux 42 ci-dessus, forment ainsi 56 jours de travail par an. Mais l'année agricole ne compte en Valaquie que 210 jours à cause du climat. Si l'on en déduit 40 jours pour dimanches et fêtes, 30 en moyenne pour mauvais temps, soit 70 jours, il en reste 140. Le rapport du travail de corvée au travail nécessaire, 56/84e ou 66/2%, exprime un taux de plus-value beaucoup moins élevé que celui qui règle le travail des ouvriers manufacturiers et agricoles de l'Angleterre. Mais ce n'est encore là que la corvée prescrite légalement. Et le « règlement organique » entre guillemets, dans un esprit encore plus libéral entre guillemets que la législation manufacturière anglaise, a su faciliter sa propre violation. Ce n'était pas assez d'avoir fait 54 jours avec 12. On a de nouveau déterminé de telle sorte l'œuvre nominale qui incombe à chacun des 54 jours de corvée, qu'il faut toujours un supplément à prendre sur les jours suivants. Tel jour, par exemple, une certaine étendue de terre doit être sarclée, et cette opération, surtout dans les plantations de maïs, exige le double de temps. Pour quelques travaux agricoles particuliers, la besogne légale de la journée se prête à une interprétation si large que souvent cette journée commence en mai et finit en octobre. Pour la Moldavie, les conditions sont encore plus dures. Aussi, un boyard s'est-il écrié dans l'enivrement du triomphe, ouvrez les guillemets, « Les 12 jours de corvée du règlement organique s'élèvent à 365 jours par an. » Fermez les guillemets. Note de bas de page. Pour plus de détails, consultez E. Regnault, Histoire politique et sociale des principautés danubiennes, Paris, 1855. Fin de la note de bas de page. Donc. Aussi un boyard s'était-il écrié dans l'enivrement du triomphe, ouvrez les guillemets, les 12 jours de corvée du règlement organique s'élèvent à 365 jours par an. Fermez les guillemets. Fin de la note de bas de page. Si le règlement organique des provinces danubiennes atteste et légalise, article par article, une fin canine de surtravail, les Factory Acts, ouvrez la parenthèse, loi de fabrique, fermez la parenthèse, en Angleterre, révèle la même maladie, mais d'une manière négative. Ces lois réfrènent la passion désordonnée du capital à absorber le travail en imposant une limitation officielle à la journée de travail, et cela au nom d'un État gouverné par les capitalistes et les landlords. Sans parler du mouvement des classes ouvrières, de jour en jour plus menaçant, la limitation du travail manufacturier a été dictée par la nécessité, par la même nécessité qui a fait répandre le guano sur les champs de l'Angleterre. La même cupidité aveugle qui épuise le sol attaquait jusqu'à sa racine la force vitale de la nation. Des épidémies périodiques attestait ce dépérissement d'une manière aussi claire que le fait la diminution de la taille du soldat en Allemagne et en France. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. En général et dans de certaines limites, c'est un témoignage en faveur de la bonne venue et de la prospérité des êtres organisés quand ils dépassent la taille moyenne de leur espèce. Pour ce qui est de l'homme, sa taille s'amoindrit dès que sa croissance régulière trouve des obstacles dans n'importe quelle circonstance, soit physique, soit sociale. Dans tous les pays de l'Europe où règne la conscription, depuis son établissement, la taille moyenne des hommes faits s'est amoindrie et ils sont en général devenus moins propres au service militaire. Avant la Révolution, 1789 entre parenthèses, la taille minimum du soldat d'infanterie en France était de 165 cm. En 1818, loi du 10 mars entre parenthèses, de 157. Enfin, après la loi du 21 mars 1832, de 156 seulement. Plus de la moitié des hommes sont généralement déclarés impropres au service pour défaut de taille et vice de constitution. La taille militaire en Saxe était, en 1780, de 178 cm. Elle est aujourd'hui de 155. En Prusse, de 157. D'après les données fournies par le docteur Meyer, du 9 mai 1862, il résulte d'une moyenne de 9 ans qu'en Prusse, sur 1000 conscrits, 716 sont impropres au service, 317 pour défaut de taille et 399 pour vice de constitution, etc. En 1858, Berlin ne put fournir son contingent pour la réserve. Il manquait 156 hommes. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. J.V. Liebig, La chimie dans son application à l'agriculture et à la physiologie. 1862, 7e édition, volume 1, page 116, 118. Fermez la parenthèse. Fin de la note de bas de page. Donc, la même cupidité aveugle qui épuise le sol attaquait jusqu'à sa racine la force vitale de la nation. Des épidémies périodiques attestaient ce dépérissement d'une manière aussi claire que le fait la diminution de la taille du soldat en Allemagne et en France. Le Factory Act de 1850, maintenant en vigueur, accorde pour le jour moyen 10 heures. 12 heures pour les 5 premiers jours de la semaine, de 6 heures du matin à 6 heures du soir, sur lesquels une demi-heure pour le déjeuner et une heure pour le dîner sont prises légalement, de sorte qu'il reste 10 heures et demie de travail, et 8 heures pour le samedi. De 6 heures du matin à 2 heures de l'après-midi, dont une demi-heure est déduite pour le déjeuner. Reste 60 heures de travail, 10 heures et demie pour les 5 premiers jours de la semaine, 7 heures et demie pour le dernier. Note de bas de page. On trouvera l'histoire du Factory Act de 1850 dans le cours de ce chapitre. Fin de la note de bas de page. Pour faire observer cette loi, on a nommé des fonctionnaires spéciaux, les inspecteurs de fabrique, directement subordonnés au ministère de l'Intérieur, dont les rapports sont publiés tous les 6 mois par ordre du Parlement. Ces rapports fournissent une statistique courante et officielle qui indique le degré de l'appétit capitaliste. Écoutons un instant les inspecteurs. Note de bas de page. Je ne m'occupe que de temps à autre de la période qui s'étend du début de la grande industrie en Angleterre jusqu'en 1845. Et sur cette matière, je renvoie le lecteur au livre de Friedrich Engels sur la situation des classes ouvrières anglaises. Ouvrez la parenthèse. Die Lage der arbeitenden Klasse in England von Friedrich Engels, Leipzig, 1845, fermez la parenthèse. Les Factory Reports, Reports on Mines, etc., qui ont paru depuis 1845, témoignent de la profondeur avec laquelle il a saisi l'esprit du mode de production capitaliste. Et la comparaison la plus superficielle de son écrit avec les rapports officiels de la, ouvrez les guillemets, Commission, fermez les guillemets, publié 20 ans plus tard, montre avec quel art admirable il a su peindre la situation dans tous ses détails. Ces derniers rapports traitent spécialement de branches d'industrie où la législation manufacturière n'était pas encore introduite en 1862 et en partie ne l'est même pas aujourd'hui. L'état des choses, tel que l'a dépeint Engels, n'y a donc pas subi de modifications bien sensibles. J'emprunte mes exemples principalement à la période de liberté commerciale qui a suivi 1848. À cette époque paradisiaque, dont les commis voyageurs du libre-échange, aussi terriblement bavards que pitoyablement ignorants, racontent tant de merveilles. Du reste, si l'Angleterre figure au premier rang, c'est qu'elle est la terre classique de la production capitaliste, et qu'elle possède seule une statistique continue et officielle des matières que nous traitons. Fin de la note de bas de page. Donc, pour faire observer cette loi, on a nommé des fonctionnaires spéciaux, les inspecteurs de fabrique, directement subordonnés au ministère de l'Intérieur, dont les rapports sont publiés tous les 6 mois par ordre du Parlement. Ces rapports fournissent une statistique courante et officielle qui indique le degré de l'appétit capitaliste. Écoutons un instant les inspecteurs. Ouvrez les guillemets. Le perfide fabricant fait commencer le travail environ 15 minutes, tantôt plus, tantôt moins, avant 6 heures du matin, et le fait terminer 15 minutes, tantôt plus, tantôt moins, après 6 heures de l'après-midi. Il dérobe 5 minutes sur le commencement et la fin de la demi-heure, accordée pour le déjeuner, et en escamote 10 sur le commencement et la fin de l'heure, accordé pour le dîner. Le samedi, il fait travailler environ 15 minutes après 2 heures de l'après-midi. Voici donc son bénéfice. Avant 6 heures du matin, 15 minutes. Après 6 heures du soir, 15 minutes. Sur le temps du déjeuner, 10 minutes. Sur le temps du dîner, 20 minutes. Total de la journée, 60 minutes. Somme en 5 jours, 300 minutes. Le samedi, avant 6 heures du matin, 15 minutes. Au déjeuner, 10 minutes. Après 2 heures de l'après-midi, 15 minutes. Total du samedi, 40 minutes. Profit de toute la semaine, 340 minutes. Ou 5 heures, 40 minutes. Ce qui, multiplié par 50 semaines de travail, déduction faite de 2 semaines pour jour de fête et quelques interruptions accidentelles, donne 27 journées de travail. Fermez les guillemets. Note de bas de page, ouvrez les guillemets. Suggestions, etc. By Mr. L. Horner, Inspector of Factories, fermez les guillemets, dans le ouvrez les guillemets, Factory Regulation Act, ordered by the House of Commons, to be printed 9 août 1859, fermez les guillemets, page 4, 5, fin de la note de bas de page. Ouvrez les guillemets. La journée de travail est-elle prolongée de 5 minutes chaque jour au-delà de sa durée normale? Cela fournit 2 jours et demi de production par an. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Reports of the Insp of Fact for the half year ended 1856. Page 34, fin de la note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Une heure de plus gagnée en attrapant par-ci par-là et à plusieurs reprises quelques lambeaux de temps ajoute un 13e mois aux 12 dont se compose chaque année. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Reports, etc. 30 April 1858, page 7. Fin de la note de bas de page. Les crises pendant lesquelles la production est suspendue où on ne travaille que peu de temps et même très peu de jours de la semaine, ne change naturellement rien au penchant qui porte le capital à prolonger la journée de travail. Moins il se fait d'affaires, plus le bénéfice doit être grand sur les affaires faites. Moins on travaille de temps, plus ce temps doit se composer de surtravail. C'est ce que prouvent les rapports des inspecteurs sur la période de crise de 1857-58. Ouvrez les guillemets. On peut trouver une inconséquence à ce qu'il y ait quelque part un travail excessif, alors que le commerce va si mal. Mais c'est précisément ce mauvais état du commerce qui pousse aux infractions les gens sans scrupules. Ils s'assurent par ce moyen un profit extra, fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Au moment même, dit Leonhard Horner, où 122 fabriques de mon district sont tout à fait abandonnées, où 143 chaumes et toutes les autres travaillent très peu de temps, le travail est prolongé au-delà des bornes prescrites par la loi. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Reports et Loxit, page 43. Fin de la note de bas de page. Mr. Howell s'exprime de la même manière, ouvre les guillemets. Bien que dans la plupart des fabriques, on ne travaille que la moitié du temps, à cause du mauvais état des affaires, je n'en reçois pas moins, comme par le passé, le même nombre de plaintes sur ce que tantôt une demi-heure, tantôt trois quarts d'heure, sont journellement extorqués, snatched entre parenthèses, aux ouvriers sur les moments de répit que leur accorde la loi pour leur repas et leur délassement. Fermez les guillemets. Note de bas de page, reports, etc. Loxit, page 25. Fin de la note de bas de page. Le même phénomène s'est reproduit sur une plus petite échelle pendant la terrible crise cotonnière de 1861-65. Note de bas de page. Reports, etc. For half year ending, the searches April 1861, U Appendix number 2, reports, etc. The 31st October 1862, page 7, 52, 53. Les infractions deviennent plus nombreuses dans le dernier semestre de 1863. Camp Reports, etc. Ending 31 octobre 1863, page 7, fermez la parenthèse, fin de la note de bas de page. Donc, le même phénomène s'est reproduit sur une plus petite échelle pendant la terrible crise cotonnière de 1861-65. Ouvrez les guillemets. Quand nous surprenons des ouvriers en train de travailler pendant les heures de repas ou dans tout autre moment illégal, on nous donne pour prétexte qu'ils ne veulent pas pour rien au monde abandonner la fabrique et que l'on est même obligé de les forcer à interrompre le travail. Ouvrez la parenthèse, nettoyage des machines, etc., fermez la parenthèse, particulièrement le samedi dans l'après-midi. Mais si les bras, entre guillemets, restent dans la fabrique quand les machines sont arrêtées, cela provient tout simplement de ce qu'entre 6h du matin et 6h du soir, dans les heures de travail légales, il ne leur a été accordé aucun moment de répit pour accomplir ces sortes d'opérations. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Reports, etc. The 31st October 1860, page 23. Pour montrer avec quel fanatisme, d'après les dépositions des fabricants devant la justice, ouvrez les guillemets, leurs bras, fermez les guillemets, s'opposent à toute interruption du travail dans la fabrique, il suffit de citer ce cas curieux. Au commencement de juin 1836, des dénonciations furent adressées au magistrat de Dewsbury, Yorkshire, entre parenthèses, d'après lesquelles les propriétaires de 8 grandes fabriques dans le voisinage de Butley, aurait violé le Factory Act. Une partie de ces messieurs était accusée d'avoir exténué de travail 5 garçons âgés de 12 à 15 ans, depuis vendredi 6h du matin jusqu'au samedi 4h du soir, sans leur permettre le moindre répit, excepté pour les repas, et 1 heure de sommeil vers minuit. Et ces enfants avaient eu à exécuter ce travail incessant de 30 heures dans le « shoddy hall », entre guillemets. Ainsi se nomme le bouge où les chiffons de laine sont mis en pièces et où une épaisse atmosphère de poussière force même le travailleur adulte à se couvrir constamment la bouche avec des mouchoirs pour protéger ses poumons. Et les accusés certifièrent, en qualité de Quakers, ils étaient trop scrupuleusement religieux pour prêter serment, que dans leur grande compassion pour ces pauvres enfants, ils leur avaient permis de dormir 4 heures, mais que ces entêtés n'avaient absolument pas voulu aller au lit. Messieurs les Quakers furent condamnés à une amende de 20 livres sterling. Traden pressentait ces Quakers quand il disait ouvrez les guillemets. Renard tout fourré de sainteté, qui craint un serment, mais mentirait comme le diable, qui, avec un air de carême, roule pieusement des regards obliques, et n'oserait commettre un péché, non, sans avoir dit sa prière. Fermez les guillemets, fin de la note de bas de page. Donc pendant la terrible crise cotonnière de 1861-65, ouvrez les guillemets. Quand nous surprenons des ouvriers en train de travailler pendant les heures de repas, ou dans tout autre moment illégal, on nous donne pour prétexte qu'ils ne veulent pas pour rien au monde abandonner la fabrique, et que l'on est même obligé de les forcer à interrompre le travail, ouvrez la parenthèse, nettoyage des machines, etc., fermez la parenthèse, particulièrement le samedi dans l'après-midi. Mais si les bras, entre guillemets, restent dans la fabrique quand les machines sont arrêtées, cela provient tout simplement de ce qu'entre 6h du matin et 6h du soir, dans les heures de travail légales, il ne leur a été accordé aucun moment de répit pour accomplir ces sortes d'opérations. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Le profit extra que donne le travail prolongé au-delà du temps fixé par la loi semble être pour beaucoup de fabricants une tentation trop grande pour qu'ils puissent y résister. Ils comptent sur la chance de n'être pas surpris en flagrant délit et calculent que même dans le cas où ils seraient découverts, l'insignifiance des amendes et des frais de justice leur assure encore un bilan en leur faveur. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Report, etc. 31 octobre 1856, page 34, fin de la note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Quand le temps additionnel est obtenu dans le cours de la journée par une multiplication de petits vols, ouvrez la parenthèse, a multiplication of small thefts, fermez la parenthèse, les inspecteurs éprouvent, pour constater les délits et établir leurs preuves, des difficultés presque insurmontables, fermez les guillemets. Note de bas de page, Loxit, page 35, fin de la note de bas de page. Ils désignent aussi ces petits vols du capital sur les temps des repas et les instants de délassement des travailleurs, sous le nom de, ouvrez les guillemets, petty pilferings of minutes, fermez les guillemets, petit filoutage de minutes. Note de bas de page, Loxit, page 48, fin de la note de bas de page. Ouvrez les guillemets, snatching of few minutes, fermez les guillemets, escamotage de minutes. Note de bas de page, Loxit, fin de la note de bas de page. Ou bien encore, ils emploient les termes techniques des ouvriers, ouvrez les guillemets, nibbling and cribbling at meal times, fermez les guillemets. Note de la donneuse de voix, dans la traduction sous la responsabilité de Jean-Pierre Lefebvre, rognage et grignotage sur les temps de repas. Fin de la note de la donneuse de voix. note de bas de page, l'occite, fin de la note de bas de page. On le voit, dans cette atmosphère, la formation de la plus-value par le surtravail ou le travail extra n'est pas un secret. Ouvrez les guillemets. Si vous me permettez, me disait un honorable fabricant, de faire travailler chaque jour 10 minutes de plus que le temps légal, vous mettrez chaque année 1000 livres sterling dans ma poche. Fermez les guillemets. Note de bas de page, l'occite, page 48, fin de la note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Les atomes du temps sont les éléments du gain. Fermez les guillemets. Note de bas de page, ouvrez les guillemets. Moments are the elements of profit. Fermez les guillemets. Report of the inspect, etc. 30 avril 1860, page 56, fin de la note de bas de page. Donc, ouvrez les guillemets. Les atomes du temps sont les éléments du gain. Fermez les guillemets. Rien n'est plus caractéristique que la distinction entre les « full times » entre guillemets, les ouvriers qui travaillent la journée entière, et les « half time » entre guillemets. Note de bas de page. Cette expression est admise officiellement aussi bien dans la fabrique que dans les rapports des inspecteurs. Donc, rien n'est plus caractéristique que la distinction entre les « full times » entre guillemets, les ouvriers qui travaillent la journée entière, et les « half times » entre guillemets, les enfants en dessous de 13 ans qui ne doivent travailler que 6 heures. Le travail n'est plus ici que du temps de travail personnifié. Toutes les différences individuelles se résolvent en une seule. Il n'y a plus que des « temps entiers » entre guillemets et des « demi-temps » entre guillemets.